Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, le 8e et le 9e verset. La Bible dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Mais voici, envoie-moi Seigneur. Amen. » Nous arrivons au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons inviter l'homme de Dieu ici présent. C'est lui qui va prier pour la parole. Bienvenue.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations ce matin? La gloire et l'honneur, c'est à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus, règne. Oh, Seigneur, ce moment est particulier pour nous parce que tu nous as donné cette grâce de nous approcher de ta présence et tu nous as agréé. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous voulons pendant ce moment que tu nous parles et que chacun qui est venu dans ta présence rentre avec ta parole, celle qui transforme et qui ouvre des perspectives, celle qui change et celle qui relève. Cette parole éternelle est notre Dieu. Nous voulons prier pour ses sœurs, pour ses frères, pour ses papas, ses mamans. Nous tous ensemble, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse d'une manière particulière contextualiser tout ce que nous allons dire pour chacun de nous, selon ce qu'il traverse et selon sa vie, Seigneur. Parle-nous, marche avec nous. Nous te bénissons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Trois portions d'écriture, nous y allons vite, vite. Nous lisons 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6, un seul verset, le verset 7. La Bible dit ce qui suit, 1 Roi 6, 7. Lorsqu'on construit le temple, on s'est servi de pierre. Tout est taillé, souligné de pierre taillée. On n'entendit ni bruit, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20. Matthieu 16, le verset 13 jusqu'au verset 20, la Bible dit, et c'est notre texte principal. La Bible dit, Jésus arrivant dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de Dieu ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres tu es Jérémie, les autres encore tu es l'un des prophètes. Et d'après vous alors, qui suis-je ?» Leur dit Jésus, « Simon, Pierre répondit, « Tu es le Messie, Le Fils de Dieu, Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié sur le ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Amen. Troisième portion d'écriture, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 9. La Bible dit, « Qui est donc Apollo et qui est Paul alors? Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une parole de Dieu qui tourne autour d'un thème. Ouvrier avec Dieu, construire l'église avec Dieu. Amen. Nous sommes des ouvriers avec Dieu pour la construction de son église. Nous sommes des ouvriers avec Dieu afin que nous puissions œuvrer ensemble pour bâtir une église selon la vision de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est comme un propriétaire des champs qui utilise des défricheurs, il utilise des laboureurs, il utilise des semeurs, il utilise des moissonneurs. Et à chaque jour, Dieu veut que le nombre de ses ouvriers augmente. À chaque jour, il y a toujours un besoin de ceux qui vont servir Dieu. En tant que ses ouvriers, Jésus veut que nous prenions part à la construction d'une église forte, prospère, visionnaire, selon les modèles de Dieu lui-même. Alléluia. L'église de Dieu se construit par la proclamation de l'évangile. L'église de Dieu ne se construit pas par autre chose, si ce n'est que seulement par la proclamation de l'évangile et une proclamation explicite. La Bible dit à Romains chapitre 10, comment les gens entendront-ils si nous ne disons pas? Comment les gens entendront-ils, croiront-ils si nous, on n'annonce pas le message de Christ? Et donc, c'est l'annonce explicite de la parole de Dieu qui fait que les pécheurs rencontrent Jésus. Alléluia. C'est quand nous leur disons ce qui nous a aidés, c'est cela qui fait que les perdus reviennent à Dieu, mais aussi nous qui avons reçu Christ, nous soyons affermis. C'est ce qui fait que nous soyons aussi affermis par la parole. C'est par l'enseignement, c'est par la proclamation de la parole que nous nous affermissons mutuellement. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes appelés à construire l'église de Dieu. L'église moi et toi, et pas l'église bâtiment. L'église moi et toi, qui sommes déjà appelés hors du commun des mortels pour rencontrer Jésus. Alléluia. Je me pose la question, est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Tu peux m'aider à poser cette question à celui qui est à côté de toi? Merci de m'avoir aidé vraiment. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Mais si tu as rencontré Jésus, gloire à son nom, parce que Jésus voudrait que tu puisses grandir, croître jusqu'à la stature parfaite de son image. Alléluia. Alors, la première partie de ce message, je voudrais ensemble qu'on mette notre attention sur une petite phrase ou bien alors sur un petit sous-titre. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît vraiment pas qui est Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas encore qui est Jésus. Et là, je prends Matthieu, chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 14. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'à ce siècle, aujourd'hui, on peut encore trouver quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais écouté l'Évangile? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'on peut avoir à ce 21e siècle quelqu'un qui dit, moi, je n'ai jamais écouté quoi? L'Évangile. Moi, je vais vous dire, bien-aimés, qu'il y en a. Il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Et même ici, il y en a encore, dans cette salle. La Bible dit au verset 13, Jésus sera à Césarée de Philippe. Jésus demande à ses disciples, est-ce que vous connaissez qui est-ce que je suis? Et aussi, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que moi je suis? Et cette question, Jésus la pose, la Bible dit, pendant qu'il venait d'arriver sur le territoire de Césarée. Le territoire de Césarée, c'est un millier et peu comme la Galilée. Le territoire de Césarée, c'est un milieu où il y a des temples païens, il y a des idoles, mais aussi c'est un milieu trop influencé par la civilisation gréco-romaine et pas judéo, vous voyez. C'est déjà une civilisation païenne à cet temps-là. Et c'est ça, dans ce milieu-là, influencé par des idoles, c'est dans ce milieu-là, influencé par une civilisation gréco-romaine, c'est dans ce milieu-là où il y a des temples païens que Jésus veut poser la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que je suis? Ce qui surprend, c'est que le monde ne connaît vraiment pas qui est Jésus. La Bible dit, les disciples donnent des réponses. Un, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Mais vous avez vu Jean-Baptiste est baptisé avant-hier. Comment les gens sont en train de dire que je suis Jean-Baptiste? Les autres disent que tu es Élie. Ah bon? Donc je suis revenant. Il y a d'autres encore qui disent que tu es Jérémie. Ah bon? Jésus, la deuxième partie est ça, on n'y touche pas maintenant. Jésus va alors adresser la question à ses disciples. Là, on va arriver après. Mais retenons une chose. Pourquoi est-ce que Jésus choisit Césarée de Philippe et pas choisir Capernaum, sa base naturelle? Pourquoi Jésus choisit Césarée de Philippe et il ne choisit pas une ville comme Jérusalem, le symbole de la sainteté? Amen, amen. Mais Jésus choisit une ville païenne avec une influence païenne remplie d'idoles. C'est là que Jésus vient poser la question à son disciple, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que je suis? C'est important, hein? Alléluia. C'est quand nous sommes au milieu des païens que Jésus nous pose la question, qu'est-ce que ces gens disent que je suis? Bien-aimés, cette demande est fondamentale. C'est une demande fondamentalement principale, si je peux dire comme ça. Jésus veut savoir qu'est-ce que les gens disent que je suis. C'est dans cette ville inappropriée, malheureusement, mais appropriée pour Jésus, que Jésus veut découvrir comment est-ce que les gens disent que je suis. Le verset 13 dit, il arriva dans les territoires. Ça veut dire Jésus s'est rendu là-bas. Alléluia. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations qui quittons nos fauteuils, rendons-nous à Césarée. Quittons nos fauteuils, rendons-nous au milieu des païens. C'est là que nous allons découvrir que les gens ne connaissent pas encore qui? Encore Dieu. Alléluia. Même ici, c'est là que j'ai dit, ici, il y en a aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus. Approchons-nous les uns des autres. Nous allons réaliser qu'il y en a certains qui sont ici juste pour nous chauffer les... Il y en a certains qui sont ici juste pour venir nous gonfler les nombres, mais ils sont encore à Césarée de Philippe. Approchons-nous d'eux. Parlons l'air de Jésus. Amen, amen. Parce que quand nous allons nous approcher d'eux, nous allons comprendre qu'ils sont réellement loin, loin, loin et loin de Jésus, loin du message de la croix. Que Dieu nous amène, que Dieu nous donne la grâce de nous approcher de ces gens-là. Alléluia. Deux leçons que nous pouvons tirer de ces versets 13 et 14. Première, Dieu veut voir ses disciples aller se confronter aux réalités du monde qui se rendent compte que le monde ne les connaît pas. C'est donc les aller auprès et au loin ou aller dans le monde. Moi, j'ai mis cette image. Je suis en train d'aller à 75 kilomètres de Nkenye au Maniema. C'est-à-dire, nous devons aller rencontrer les gens très loin, mais aussi, nous devons aller rencontrer les gens qui sont proches de nous et réaliser que les gens ne connaissent pas encore Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Le verset 34 qui m'intéresse, « Certains d'entre vous ne connaissent pas encore qui ? Dieu. » Amen, amen. Certains d'entre nous ne connaissent pas encore Dieu. Approchons-nous de ces gens. Ils risquent de se perdre. Ils risquent de louper, de rater la vie éternelle. Approchons-nous de ces gens. Amen, amen. Le monde ne connaît pas encore Dieu. Deuxième leçon. C'est du monde. Oh, certes, déjà entendu par leurs oreilles. Ils ont déjà entendu parler de Jésus-Christ. Mais ils le prennent comme un homme du passé. Ils le prennent comme Élie, ils le prennent comme Jean-Baptiste, ils le prennent comme Jérémie, comme l'un des prophètes, Moïse et autres. Il y en a même ici, certaines personnes qui comprennent, qui ont déjà entendu parler de Jésus, des foules qui ont déjà entendu parler de Jésus, mais pour eux, Jésus, c'est un monsieur qui fait du bien seulement. Il y en a déjà ici qui comprennent Jésus, ils sont encore à Césarée. Ils savent que Jésus, c'est un monsieur qui fait du bien. Il se limite là. Ils savent que Jésus, c'est un faiseur de miracles. Il y en a des gens qui sont au niveau là ici. Il y a des gens qui disent, bon, Jésus, c'est un monsieur fort. Il a commencé un grand mouvement. Et ce mouvement a déjà empalé des hommes, des femmes, de milliers et de milliers. C'est un monsieur. Il y en a ici des gens qui disent, Jésus, c'est un grand réformateur. Et je vais vous dire, dans des sources extra-bibliques qui attestent de la présence de Jésus sur la terre, là, quand vous lisez un certain des documents sur Tacite, vous trouvez surtout à Flavius, Pline le Jeune, qui disent « Jésus, c'est un monsieur qui a existé à Jérusalem et qui était qualifié de perturbateur de l'ordre public. » Donc, on atteste que Jésus a été là, mais c'était un monsieur qui troublait l'ordre commun. Quand on dit le jour de sabbat, ne faites pas ça, lui il le fait. Quand on dit ceci, Jésus va toujours contrairement à ce que les pharisiens et ce que le judaïsme professaient. Il ne partait pas toujours comme il voulait. Alors, Pline le Jeune et les autres, qu'on appelle des sources extra-bibliques, ils disent Jésus, c'est un perturbateur de l'ordre commun. Ils ont déjà entendu parler de Jésus, mais pour eux, Jésus, c'est autre chose. Il y en a aussi ici, c'est pour qui Jésus, c'est autre chose. Faiseur de bien, faiseur de miracles, un grand réformateur, un grand monsieur qui a déjà empalé beaucoup de gens. C'est un prophète au même titre que Mohamed, c'est un prophète au même titre que tous les autres. Il les qualifie de Jean-Baptiste. Il les qualifie de Jérémie, il les qualifie de Élie. J'ai remarqué une chose de tous ces gens que le disciple a cité, c'est que tous les trois prophètes, Élie, Jérémie et Jean-Baptiste, ce sont des prophètes qui ont lutté contre les abus du pouvoir. Jean-Baptiste a lutté contre les abus du pouvoir de son temps, Jérémie a lutté contre les abus du pouvoir de son temps, Élie a lutté contre l'adoration des Baal, les abus du pouvoir d'Akab. On pourrait donc déduire de ceci que les gens prenaient Jésus comme un simple libérateur qui vient les libérer des abus du pouvoir qu'ils connaissaient. Il y en a ici des gens qui prennent Jésus comme simplement un héros, au même titre que Lumumba et tous les autres. Vous allez dire que ces gens ont déjà entendu parler de Jésus. C'est pour cela que nous avons dit, au milieu même de nous, il y en a aussi ceux qui ne connaissent pas encore qui. Parce que entendre parler de Jésus, c'est connaître sa vraie identité. Amen, amen. Dire que j'ai déjà entendu parler de Jésus, c'est alors prouver, manifester la vraie identité de Jésus. Deuxième chose de ce message, c'est au milieu des païens que les disciples doivent confesser Jésus comme Messie. Alléluia. C'est là à Césarée. C'est au milieu de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est au milieu des adorateurs des idoles. C'est au milieu de ceux qui fréquentent des temples païens, de ceux qui sont influencés par les siècles présents. C'est au milieu de ces gens que nous devons confesser, que nous devons professer notre foi, confesser Jésus comme notre Messie. Alléluia. Les disciples n'ont aucune autre réponse à part ce que Dieu lui-même avait révélé à Matthieu 3, le verset 17. Dieu avait déjà dit, écoutez mon fils bien-aimé, à qui j'aimais toutes mains. Ça, c'était devant tout le public juif. Tous ceux qui étaient venus se faire baptiser. Mais comment est-ce que quand Jésus se rend en Césarée, où il y a des juifs et le public païen, les gens osent dire qu'il est Jérémie, qu'il est même celui qui baptisait, alors qu'ils avaient vu Jésus être aussi baptisé les jours-là. Ça veut simplement dire que notre monde est incrédule. Notre monde connaît, a déjà entendu très bien de Christ. Mais notre monde ne veut pas le confesser. Alléluia. Les gens ont déjà entendu parler de Christ. Mais ils ne veulent pas confesser Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Ils ne veulent pas confesser Christ comme Dieu. Écoutez mon fils bien-aimé, à qui je mets toute ma confiance. Les Juifs, au lieu de dire non, nous étions là. Quand on a témoigné de Jésus, ils s'arrêtent à dire non, il est Jean-Baptiste. Alors qu'ils avaient vu Jean-Baptiste et qu'ils savent que Jean-Baptiste a été tué par Hérode. Les gens sont incrédules. Mais nous qui avons connu Christ, proclamons qu'il n'est pas Jean-Baptiste. Proclamons qu'il n'est pas héros. Proclamons qu'il est plus que même Salomon, qu'il est le Messie qui nous mène à la vie éternelle. Alléluia. C'est cette pensée que Dieu révèle par son esprit à Pierre. Et Jésus dit, ça ne vient pas vraiment de toi. Ce n'est pas un cœur humain qui donne cette réponse. Jésus vient à dire, ceci t'a été donné par l'Esprit de Dieu ou par mon Père. Alléluia. Amen, amen. C'est en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est cette confession qui vient fonder l'Église. C'est cette confession qui bâtit l'Église. C'est cette confession qui amène, qui dépeuple le royaume des ténèbres, qui amène les gens vers la lumière que nous donne Jésus. Amen. Et donc chacun de nous doit aller confesser cela au milieu des païens, que Jésus est la voyée de Dieu. Jésus est celui qui vient sauver le monde. Jésus est celui qui vient transformer des vies. Jésus, ce n'est pas à la dimension seulement des prophètes. Jésus est plus qu'un prophète. Alléluia. C'est un devoir de chacun de nous. Nous n'allons pas confesser cela à Jérusalem. Nous n'allons pas confesser seulement cela ici à l'église. Dieu nous envoie d'aller le confesser à Césarée de Philippe. Alléluia. Dieu nous envoie à aller confesser cela au milieu des païens. Le bon endroit où tu dois vivre et prouver que tu es chrétien, c'est quand tu es au milieu des païens. Amen. Le bon milieu où tu dois prouver que tu t'es consacré à Dieu, c'est quand tu es avec deux. Malheureusement, certaines personnes, quand ils sont avec les païens, ils ont tendance à s'humisquer et ressembler à ces païens-là. Malheureusement, certains disciples, quand ils sont à Césarée de Philippe, au lieu de prouver leur vraie identité, ils ont l'habitude de se dissimuler. Aïe. Amen. Certaines personnes, au lieu de proclamer, et j'ai vu une païenne venir me dire, pasteur, j'ai vu même tel, nous étions à la fête, j'ai vu même tel faire ceci, pasteur. Tu dis quoi? Non, pasteur, ne sois pas surpris. Moi, je l'ai vu, j'ai pris même la photo, on a. C'était lui. Je disais, je vais t'amener sa photo, pasteur. On a, pasteur. Même papa tel, il faisait ça. Mm-hmm. J'ai eu honte à sa place. Au lieu de prouver la parole qu'il a reçue, il se dissimule et il jette de l'opprobre à sa propre confession de foi. Que Dieu nous en épargne. Amen. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque fait quoi? C'est une puissance. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a toujours arrêté de proclamer? Qu'est-ce qui a toujours fait que tu aies honte alors que Dieu attend de toi le témoignage? Qu'est-ce qui a toujours fait que tu aies honte de confesser ce que tu as reçu alors que Dieu attend de toi cette confession? Aujourd'hui, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu dis que je suis? Alléluia. Quand tu es avec tes amis sous l'arbre là, qu'est-ce que tu dis que Jésus est pour toi? Il y a des oreilles ouvertes, n'est-ce pas? Il y a, n'est-ce pas, des oreilles qui m'attendent. Quand tu es avec tes amis voleurs là, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu dis que moi je suis pour toi? Tu sais ce que le monde dit que je suis, mais qu'est-ce que tu dis que je suis aussi pour toi, pour ta vie? La Bible dit, Pierre, comme un représentant des autres, il leva sa parole et dit, tu es Jésus. Alléluia. Tu es le Messie, celui qui a été envoyé. Alléluia. Jésus doit être le Messie pour moi, le Messie pour toi. Témoignons que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, au milieu de païens, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Allons témoigner cela. Allons proclamer cela. Nous les proclamons à Goma, nous les proclamons dans nos familles, nous les proclamons loin. Nous allons proclamer que Christ est le Messie qui vient sauver le monde. Alléluia. Christ est celui qui peut transformer les hommes et les femmes. N'ayons pas honte de l'évangile. Amen. N'ayons pas honte de vivre la vie chrétienne. N'ayons pas honte de dire aux gens, moi je ne vais pas là-bas, moi je suis déjà chrétien. La Bible dit en hébreu, nous ne sommes pas du nombre de ceux qui régressent pour détruire leur foi ou bien leurs âmes. Mais au contraire, bien au contraire, nous sommes au nombre de ceux qui avancent, proclamant Christ qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Depuis quand tu as commencé à te dissimuler? Allô? Depuis quand est-ce que tu as commencé à te dissimuler? Depuis quand tu as commencé à vivre le conformisme? Depuis quand tu as commencé à ressembler aux habitants de Césarée de Philippe? C'est pas chez vous, hein? Ce qui est drôle, c'est que même ceux de Césarée de Philippe, ils savent que toi, tu es déjà disciple. Ils ont un jour s'étonné de voir que tu as commencé à conjuguer le même verbe que eux. Ils se sont dit, pour quelqu'un ici, c'est de Césarée, lui ont dit, toi, tu ne dois pas faire ça. Et lui, il a dit, pourquoi? Je suis aussi un homme. Cette question valait la peine d'être posée pour chacun de nous. Je te supplie de m'aider encore. Tu la poses à celui qui est là. Depuis quand tu as commencé à te dissimuler? C'est depuis quand? Tu te donnes des raisons. Tu te donnes des prétextes. Tu te donnes des explications pour satisfaire ta conscience. Mais est-ce que Dieu est d'accord de ce que tu dis là? qui te donne des échappatoires. Tu vas même jusqu'à donner toutes les foules avec lesquelles vous allez. Tu vois même tel est dedans. Oui, il est dedans. Mais toi, depuis quand? Alléluia. Allons proclamer en loin. Allons proclamer auprès. Je parle d'aller proclamer en loin. Je voudrais ici vous montrer une image de notre paroisse, là où nous allons proclamer l'évangile à Sangourou. Notre paroisse de Goma, ville de Sangourou, c'est celle-ci. Ça, c'est la paroisse de Goma, ville de Sangourou. C'est la première paroisse de la Sebeka Lusambo à Sangourou. Quand vous posez la question à Sangourou, où est la Sebeka? Vous allez prier ici. Ici, nous sommes à Kalima, cité. C'est à presque 120 km de Kindu. Et là, c'est la paroisse de Kalima, cité. Ça, c'est la paroisse qui est dans les Sandreville. Mais il y a la Sebeka Virunga de là, qui est un peu à côté de la ville. Mais ça, c'est la paroisse qui est vraiment au cœur de la ville. Nous allons proclamer l'évangile. Nous allons annoncer que Christ est le libérateur, que Christ est le Messie, que Christ nous a transformés, que Christ nous a rachetés avec nos biens. Et là, Christ nous a rachetés avec nos quoi? Christ nous a rachetés avec nos biens, n'est-ce pas? C'est le message que nous amenons à ceux qui sont à Lusambo, la capitale de Sangourou. Nous leur amenons le message que voici ce que la Sebeka, ce que le Christ a fait de nous. Frères et sœurs, que Dieu nous donne la grâce de briser toutes les barrières qui bloquent notre témoignage au milieu des pécheurs. Alléluia. Certains, ils sont au milieu de nous. Un, ils ne veulent pas ouvrir la bouche que Christ est Messie. Deux, ils échouent à donner pour Christ qui est Messie. Trois, ils ne savent pas vivre que Christ est qui? Qu'est-ce qu'ils ont venu faire ici? Bon, le pasteur va me dire, là tu veux chasser les gens. Je m'arrête là-bas, je ne vais plus exagérer, parler de cela, mais retenez que vous échouez de parler de Christ, vous échouez de vivre Christ, vous échouez de vous donner pour Christ. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Utilisons tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tous les moyens, mettons-les en action. S'il s'agit de parler, parlons. Si on ne nous donne pas l'occasion de parler, marchons, qu'ils remarquent que nous sommes de Christ. Si on ne nous donne pas l'occasion de marcher, faisons des gestes pour seulement dire que Christ est Seigneur. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, et si je manquais la voix, et si je n'ai pas de main, merci de m'aider. Et si je n'ai pas de pied, et si je n'ai pas d'âme, et si je n'ai pas d'âme. Vous voyez, si tu n'as pas de main, loue-les avec ta bouche. Si tu n'as pas de bouche, loue-les avec des pieds. Tu ne peux pas manquer et la bouche, et les pieds, et les mains, et l'âme. Tu ne peux pas manquer tout ça. Tu n'as donc pas raison de dire que tu ne peux pas louer Christ. Tu ne peux pas proclamer Christ. Alléluia. Si nous n'allons pas chercher les pécheurs, alors nous sommes encore pécheurs. Si nous traînons encore les pas pour aller annoncer Christ, nous sommes déjà vers lesquels on doit venir annoncer qui? Si nous ne voulons pas aller proclamer que Christ nous a transformés, oh, que Dieu aide à ce que nous trouvions ceux qui viendront nous proclamer cela. On ne peut pas être intermédiaire. Soutenons tous ceux qui se donnent pour l'annonce de la bonne nouvelle, afin que Christ soit connu comme le Messie partout. Alléluia. Troisième, dernier point. Sur ces rochers, Jésus construit une église inébranlable. Sur ces rochers, Jésus construit une église qui est comment? Inébranlable. C'est quoi ces rochers? Nous allons remarquer trois choses dans notre texte. Là, c'est 18 à 20. Trois choses. Première chose, Jésus dit, tu es Pierre. Le grec, c'est épée. Même ma version française de Louis II 21 a dit, tu es Pierre, et sur ce rocher. Mais il y a certaines versions, paroles de vie, la Bible français courant, la Bible expliquée, et d'autres versions, j'essaie de voir. Il y en a ceux qui disent, tu es Pierre, et sur cette pierre. Ça donne alors une confusion. C'est comme si tu es Pierre sur toi. Et ça, c'est la tendance catholique, où tu es Pierre et sur toi. Pourquoi pour les catholiques? Parce que Dieu a laissé des clés à Pierre. Et c'est lui le premier pape ou bien le premier responsable de l'église à Rome. Et pour cela, ils disent, alors c'est sur Pierre. Et voilà, cette basilique va être construite sur le tombeau de Pierre. Parce qu'on poursuit sur toi. Sur cette pierre, sur cette proclamation, sur cette confession, le grec dit sur la pétra. Toi, tu es Petros, et sur la pétra là, sur le roc là, je vais bâtir mon église. Amen. Hein? Ce que tu as dit, la pierre, c'est là que je vais bâtir ceux qui seront appelés. Ceux qui seront appelés viendront se joindre à cette confession, et ce sont ces gens-là qu'on appellera église. Bien-aimés, les chrétiens forment une église construite sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ est la pierre angulaire, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Amen, amen. Nous sommes construits sur Christ et la pierre angulaire et les apôtres, le message que les apôtres nous ont annoncé, ce message est pour nous un fondement. Il importe de comprendre que Jésus-Christ lui-même, qui est le fondement sur lequel l'Église est bâtie, il s'est donné pour l'Église. Alléluia. Et notre texte, c'est « Avoir vers la Passion » où à bientôt nous allons célébrer même la fête des Rameaux. Jésus sait que son temps est en train d'approcher. Il voudrait se rassurer. Qu'est-ce que les disciples connaissent de lui? Heureusement que les disciples savent qu'il est le Messie qui vient sauver le monde. Alléluia. Qui vient sauver tout homme de l'obscurantisme du péché. Jésus est le vrai rocher de notre vie chrétienne sur lequel chacun de nous doit s'appuyer. Jésus est le vrai rocher sur lequel chacun de nous doit construire. Et la Bible dit à Ésaïe 28, le verset 16, c'est pourquoi voici la parole du Seigneur Dieu. Je pose à Sion une pierre de fondation très dure, une pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle n'aura pas honte ou ne tombera pas. Alléluia. Jésus, c'est la pierre sur laquelle, si tu t'appuies, tu n'auras jamais honte. Alléluia. Jésus, c'est la pierre immuable. Ce n'est pas une pierre qui devient poussière. Parce qu'il y en a des pierres qui deviennent quoi? N'est-ce pas? Nous qui avons étudié à Ville, parfois on écrivait avec des pierres sur l'ardoise. La génération du WhatsApp ne peut pas se retrouver. On a écrit parfois avec la pierre sur l'ardoise. Quand on a perdu sa touche ou son crayon, on a parfois écrit avec la pierre qui devient poussière. Nous, la génération là, des Aïrois, on a écrit ça. Mais maintenant, Jésus n'est pas cette pierre qui devient poussière. Jésus, c'est la pierre, le roc. Si tu t'appuies sur cette pierre, tu n'auras pas honte. Alléluia. Chaque chrétien, c'est une petite pierre. Voilà comment j'ai dit, parce que même Pierre dit, nous devons être des pierres vivantes. Et le texte que nous avons lu, à 1 Roi 6, 7, la Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, on s'est servi de pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent attendus dans la maison pendant qu'on les construisait. Amen. Nous sommes comme des petites pierres qui viennent se superposer sur la pierre qui est qui? Qui est Jésus. Amen, amen. Mais nous ne devons pas être n'importe quelle pierre. Nous devons être des pierres qui sont déjà. Est-ce que nous sommes des pierres taillées ici? Parce que la conséquence des pierres taillées, la Bible dit, il n'y a aucun bruit, ni de marteau, ni de hache, ni de fer. Les ingénieurs sont ici. Alléluia, les ingénieurs. Parce qu'on ne peut pas construire sans attendre le bruit des marteaux. Si on voit un maçon venir bâtir la fondation sans marteau, est-ce que ça c'est un bon maçon? On va dire, rentre, tu n'as pas tous les instruments. Mais pour la construction du temple de Dieu, on n'a pas besoin de marteau ici. Les pierres sont toutes taillées, elles conviennent chacune à sa place. Alléluia! Chaque pierre convient là où il faut. Cette pierre, où est-ce qu'elle a été taillée? De la carrière, la pierre est passée à Golgotha. Alléluia! Cette pierre a été taillée, parce que la Bible dit, tous ont péché. Mais à Christ, par Christ seulement, par un seul homme, nous tous nous avons été récupérés. Et désormais, nous constituons une nouvelle génération. Amen. C'est là, la première carrière, c'est la carrière d'Adam. Romain en parle. Il dit, il y a les hommes d'Adam, mais il y a aussi la génération en Christ. Amen. Nous qui sommes nés par Christ, par la carrière de Jésus, nous n'avons pas besoin de faire des bruits là où nous allons construire. C'est comme ça que nous bâtissons les temples de Dieu. C'est comme ça que nous construisons la maison de Dieu. Ce n'est pas le bruit comme dans l'épître aux Romains. Oh non, nous sommes des pierres. Oh non, nous sommes d'Apollo. Oh non, nous sommes des. Oh non, nous sommes des. Ça montre que vous n'avez jamais été taillé. Paul va leur dire, ce que moi j'ai fait, ce qu'Apollo a fait, ce n'était rien. Si Christ, si Dieu n'a pas fait germer. Chaque chrétien, oui, a un rôle différent de celui de l'autre. Mais nous faisons tous, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire du même Seigneur. Alléluia. Que ce qui donne, donne avec joie. Que les étudiants qui sont encore au bas de l'école, qui n'ont pas encore beaucoup de choses à donner, qu'ils louent Dieu aussi avec joie. Ceux qui sont au chômage, qu'ils glorifient le Seigneur avec joie. Et ceux qui ont donné avec joie. La caractéristique commune pour ceux qui ont donné, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui sont au bas de l'école, c'est que nous tous, nous faisons ce que nous faisons avec quoi? Avec joie. C'est ce qui bâtit le corps de Christ. Amen, amen. Les efforts humains de chacun sont moins importants, mais c'est Dieu qui adonne le fruit. Alléluia. Tout ce que nous faisons, dire que moi je suis prédicateur. Non, c'est nous qui soutenons Goma Ville. C'est nous, papa. Ça, ce n'est rien si Christ ne fait pas germer. Alléluia. C'est nous. Oui, c'est vous. Et nous aussi, c'est nous. C'est vous qui soutenez, c'est nous qui faisons. Mais nous tous, personne ne peut se glorifier. Nous tous, nous les faisons pour la gloire de qui? Et ça donne à chacun de nous la joie. Parce que la joie du serviteur, c'est d'avoir accompli ce qu'il lui a demandé de faire quoi? De réaliser. Amen, amen. Et Paul a dit, nous sommes des serviteurs unis. Nous qui faisons ce qu'on nous demande de faire. Ne cherchez pas à tout faire seul. Fais tout avec Dieu. La mission ne peut jamais évoluer par les efforts d'un individu. La mission évolue parce que chacun de nous a mis la main sur la pâte. Alléluia. Mais la question à nous poser, même quand nous disons, même si chacun de nous a mis la main sur la pâte, la question à nous poser, c'est est-ce que chacun de nous est en train de confesser Jésus comme Christ, ou bien Jésus comme Jean, ou bien Jésus comme Élie, ou comme Jérémie? Si nous sommes dans un auditoire où les gens confessent Jésus comme Jean, c'est difficile de bâtir une telle église. Si nous sommes dans un auditoire où les gens trouvent important se mettre du côté de Paul, se mettre du côté d'Apollo, se mettre du côté de quoi? Si nous sommes dans un tel auditoire, c'est difficile de bâtir l'église de Dieu. L'église va rester échangeable, immuable, mais cette église nous fera beaucoup souffrir, nous les pierres, parce que nous aurons des pierres qui ne conviennent pas à leur place. Nous autres, on ne sait pas chanter, mais nous admirons beaucoup ceux qui chantent. Nous aimons aussi danser comme eux, Mais parfois, ceux qui sont derrière nous, ils nous disent « das bien ». Parce qu'ils trouvent que notre das risque de déconnecter, désorienter les autres. Nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous nous contentons aussi de ce que Dieu nous donne à faire. La portion de grâce que Dieu nous donne à faire, nous la réalisons avec joie. Amen. Dans cette paroisse de Gomaville, est-ce que tu peux commencer à dire, moi aussi, je ne sais pas où chanter, je ne sais pas aussi ça, mais quand moi aussi je me tiens là-bas. Alléluia. Mais si tu es ici, tu n'as pas là où tu te tiens avec joie, frère. Bon, tu dis, nous nous donnons. Mais toi, tu as toujours donné aussi 1 000 francs comme moi. Tu dis, nous sommes de l'équipe qui soutient l'église. Mais toi aussi, tu donnes 1 000 francs et moi qui chante, je donne 1 000 francs. À quoi est-ce que tu soutiens? Donc, ce sont des questions. Où est-ce que je me situe? Situons-nous chacun de nous. Amen. Hein? Le Seigneur est comme un propriétaire des champs, c'est comme ça qu'on a dit, qui utilise des défricheurs, des laboureurs, des semeurs, des moissonneurs. Chacun, il les met là où il faut pour que sa moisson puisse germer et donner des fruits. Amen. Hein? Je voudrais vous donner un bref rapport du mois de la mission que nous avons fait l'année passée. Vous avez donné 208 000 dollars l'année passée, donc toute la communauté. Et les 208 000 dollars, on les a utilisés à beau père de famille. Quand j'ai dit « on », je vais dire les autorités et toute l'équipe qui les entoure. Et on a acheté une parcelle à Lubumbashi de 191 000 dollars. La parcelle, c'est celle-là. Vous voyez, c'est sur le boulevard. Voilà, c'est la parcelle ici. La clôture là avec le manguier là à l'intérieur. C'est là où il y a Airtel, je sais pas, Airtel Money ou Orange, Vodacom, voilà. C'est cette parcelle ici. Il y a 2 maisons qu'on va détruire quand on va commencer la construction selon les formats de la CBK. Mais il y a 2 maisons là-bas. Nous l'avons acheté 191 000 dollars. N'est-ce pas ça, c'est achandé. L'enveloppe que tu as toujours pris pour la mission, elle fait le travail de la mission. Alléluia. Ça, à Lubumbashi, nous avons 4 paroisses. Nous avons Karavia, nous avons Hewabora, nous avons Kamasaka, nous avons la Kenya. 5e, c'est maintenant la chapelle de Chipushi. Mais nous n'avons pas encore une paroisse qui était vraiment sur le boulevard. Nous avions encore des paroisses qui étaient dans des quartiers. Karavia, c'est comme MGL. Je ne connais pas MGL de Goma. Alors, Hewabora, c'est comme Birere. Oui, la Kenya, c'est comme marché central là-bas. Et puis Kamasaka, je vais dire, c'est comme disons Katoi autour de ça, qui pousse ses épées encore d'aller. Mais pour cette année passée, la communauté s'est dit, nous sommes une grande église, on ne doit pas fonctionner dans des faubourgs où on n'a pas d'adresse. On doit être sur le boulevard, de façon que quand vous envoyez un enfant à Lubumbashi, il vous dira, j'ai vu chez nous, n'est-ce pas, hein? C'est ça le travail. Et je ne vais pas aller dans les détails pour vous dire quelles sont les réactions des habitants, surtout certaines églises, membres de l'ECC dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de la CBK? Je voudrais seulement vous dire l'œuvre de Dieu est en train de parler d'elle-même parce que nous avons envoyé les moyens là où nos pieds ne vont pas arriver si facilement. Donnons de nos moyens. Amen. Nous allons prier pour ça. Nous prions pour ceux qui sont encore pécheurs, qui sont encore à Césarée de Philippe, qui deviennent des pierres d'achoppement contre ceux qui confessent Christ. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour les changements de tels papas, de tels frères, de telles sœurs, que Dieu les amène au changement et à connaître Christ. Alléluia. Inclinons nos têtes et prions. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour tout. Parce que tu nous as envoyés à Césarée. Tu nous veux témoigner de ta présence à Césarée. Nous allons rencontrer des pécheurs, des hommes qui ont la morale chrétienne, mais qui ne te connaissent pas. Nous avons rencontré des femmes qui ont encore la morale gréco-romaine du siècle présent. Nous y avons rencontré des gens qui adorent encore des idoles et des gens qui sont encore dans des temples païens. Donne-nous la grâce, donne-nous la force de continuer à proclamer que tu es Seigneur et Sauveur, le Messie qui nous a été envoyé. Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas avoir honte de l'Évangile. Donne-nous la grâce de te proclamer par ce que nous disons, par notre vie, par nos moyens, tout ce que tu nous donnes à faire, fait que nous puissions te proclamer, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es présent et nous prions qu'au sortir de ce temple, que tu aies déjà donné à chacun un devoir qu'il va faire pour sa vie, pour sa famille, pour le milieu dans lequel il travaille, parce que tu nous veux proclamer. Nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.